Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
À Chanteloup Living, Édouard Philippe fustige des irresponsables qui ont attaqué les forces de l'ordre et incendié une école de cirque. La droite l'accuse de minimiser des actes criminels. La stupéfaction à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques, la cathédrale inscrite à l'UNESCO a été cambriolée.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait réalisé. Je n'avais jamais connu ça pour une église. Ça fait attaque de banque, quoi.
Le curé d'Oloron-Sainte-Marie. Jean-Claude Gaudin n'assistera pas aux commémorations à Marseille un an après les effondrements de la rue d'Aubagne qui avait fait 8 victimes, incompréhension des habitants. Emmanuel Macron est en Chine, plus européen que jamais. En foot, veillée d'armes à Lille comme à Lyon, grande soirée de Ligue des Champions demain. Et puis Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019 pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » paru chez l'Olivier, une récompense accueillie avec une grande modestie.
C'est adorable et puis voilà, ça... je suis pas fait pour ce genre de choses. C'est pas mon univers, c'est... Voilà.
Jean-Paul Dubois, nouveau prix Goncourt pour son roman bouleversant et nostalgique sur le bonheur perdu. Nous, c'est le beau temps qu'on a perdu, même si la tempête Amélie quittera définitivement la France demain par l'Est. Sur la façade Ouest, encore beaucoup de pluie. Ce soir, moins de 10 000 foyers restent privés d'électricité. Ne manquez pas surtout les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Tristan Borne. Il est le directeur général d'Arc France, le leader mondial des arts de la table. Noël se prépare déjà pour les grandes marques.
Europe 1.
C'est l'une des images marquantes du week-end. Ce chapiteau qui abritait une école de cirque ravagée par les flammes à Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines. Inauguré l'an dernier, le bâtiment a été entièrement détruit par des jeunes qui s'en sont pris également aux forces de l'ordre. Le président du conseil départemental promet qu'il sera reconstruit dans moins d'un an. Un épisode qui a fait réagir en tout cas aujourd'hui Édouard Philippe.
Nous déplorons évidemment ces actes imbéciles et violents. Nous sommes parfaitement conscients de ce que les tensions qui se développent sont en partie liées à l'effort très intense que nous livrons s'agissant des trafics de stupéfiants. Mais nous sommes déterminés à faire en sorte que ces trafics puissent cesser et à faire en sorte que l'ordre puisse être rétabli. C'est donc un message de soutien aux élus locaux qui doivent affronter ces situations, mais aussi un message de fermeté à l'égard de... la petite bande, car je crois qu'en vérité, il s'agit d'une petite bande d'imbéciles et d'irresponsables qui pensent que tout casser est une façon de faire avancer les choses.
Imbéciles et irresponsables, des qualificatifs d'Édouard Philippe qui ne passent pas à droite. Ce ne sont pas des imbéciles, mais des criminels, l'ont rétorqué Éric Ciotti et Bruno Retailleau chez Les Républicains. Sur place, en tout cas, à Chanteloup-les-Vignes, les élus locaux font une promesse. Le chapiteau sera reconstruit à l'identique et dans moins d'un an. Caroline Baudry, vous avez passé la journée sur place.
C'est devant le chapiteau ravagé par les flammes que le président des Yvelines, Pierre Bédier, a pris cet engagement aujourd'hui. Le département financera la structure, le matériel, environ 1 600 000 euros pour faire renaître le chapiteau.
Nous sommes prêts, nous, le département, à payer 100% pour lancer les travaux tout de suite de reconstruction du chapiteau à l'identique. On ne peut pas repartir sur un grand projet. Dans moins d'un an, il faut que ça soit fait.
Pour les parents, les enseignants du coin, c'est tout un symbole, celui du renouveau de Chanteloup-les-Vignes qui vient de s'écrouler. Des spectacles d'enfants tombent à l'eau. Ce cirque a été inauguré en 2018 avec Neouza Tomasi à la tête de la Compagnie des Contraires.
Je crois que toute la ville est en deuil. Les enfants, ils ont vu les familles par leurs fenêtres brûler leurs rêves, brûler leurs chapiteaux. Et ça, je crois qu'ils sont tous traumatisés en ce moment. Et ça, c'est moche.
Déjà, la ville vient de lancer un appel aux dons. Et puis le président du département compte débloquer une subvention exceptionnelle pour la commune. L'objectif, renforcer la sécurité en recrutant des policiers.
Le reportage de Caroline Baudry à Chanteloup-les-Vignes pour Europe 1. Trois ministres, celui de l'Intérieur, celui de la Justice et celui de la Ville, se rendront sur place demain matin. À Béziers, l'école des Tamaris, qui elle a été incendiée le soir d'Halloween, cette école sera rasée et entièrement reconstruite. Les 279 enfants qui n'ont pas pu reprendre les cours aujourd'hui seront répartis dans d'autres groupes scolaires. Hier, un mineur de 15 ans, déjà connu de la justice, a été mis en examen, soupçonné d'avoir participé à l'incendie de cette école. Dans les Pyrénées-Atlantiques, les malfaiteurs qui s'en sont pris la nuit dernière à la cathédrale d'Oloron-Sainte-Marie courent toujours. Ils ont dérobé une partie du trésor de cette cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, trésor inestimable. Benjamin Peter, vous êtes sur place pour Europe 1. Les voleurs, Benjamin, ont enfoncé la porte à la voiture Bélier.
Oui, c'est à l'aide d'un tronc d'arbre, un chêne plus exactement installé dans le coffre, que ces cambrioleurs ont fait sauter la serrure de cette porte latérale de la cathédrale. Ils ont ensuite scié les barreaux qui gardaient le trésor et se sont emparés de reliquaires, d'objets d'orfèvrerie et de vêtements sacerdotaux datant du XVIe siècle. Et pourtant, le maire, Hervé-Luc Béreille, pensait ces objets de valeur suffisamment protégés.
Nous, on pensait que les portes telles qu'elles sont à la cathédrale, les grilles qu'on avait mis en place, les vitres qui étaient anti-intrusion, plus l'alarme, il nous semblait qu'on était à peu près correct quoi, en termes de sécurité. Eh bien, il faut croire que ce n'était pas suffisant.
Le père Jean-Marie Barenne, le curé de la cathédrale, est encore sidéré par le mode opératoire des voleurs.
Je ne suis pas sûr d'avoir tout à fait réalisé. Je n'avais jamais connu ça pour une église. Ça fait attaque de banque, quoi. Ce sont des objets de culte donc, qui ont été consacrés. C'est le patrimoine en même temps. Beaucoup d'éléments qui font qu'on est attristé. C'est quand même un genre d'attaque auquel on n'est pas habitué à Oloron, quoi.
Alors, eux sont persuadés qu'il s'agit de professionnels qui savaient ce qu'ils cherchaient. Le véhicule qui a servi à enfoncer la porte a été retrouvé, mais les voleurs ont pu prendre la fuite à bord d'un second véhicule et sont toujours recherchés par les gendarmes.
Benjamin Péter à Oloron-Sainte-Marie dans les Pyrénées-Atlantiques pour Europe 1. Après le passage de la tempête Amélie, moins de 10 000 foyers restent désormais privés d'électricité en Nouvelle-Aquitaine, mais la situation est en train de rentrer dans l'ordre un petit à petit. À Nice, le corps sans vie d'une femme de 71 ans portée disparue depuis hier a été retrouvé dans son jardin, enseveli par un glissement de terrain. À Marseille, les drapeaux en berne à l'occasion du premier anniversaire du drame de la rue d'Aubagne à 9h05 demain, à l'heure précise de l'effondrement des deux immeubles. 8 minutes de silence seront observées sur place en hommage aux 8 victimes. Des commémorations auxquelles n'assistera pas Jean-Claude Gaudin, le maire de Marseille, Stéphane Frangy.
Et non, puisqu'il n'a pas oublié les manifestations de colère sous le balcon de sa mairie dans les jours et semaines qui avaient suivi le drame. Jean-Claude Gaudin qui veut jouer l'apaisement et s'effacer.
Je sais bien que dans une ville, le maire, par nature, est responsable de tout. Ce drame, je l'assume totalement, mais mon rôle est d'apaiser. Je ne crois pas que ma présence soit souhaitée. Vous pensez bien que de ce que j'ai vécu depuis un an, je cherche surtout l'apaisement.
Voilà, et dans la foulée des militants associatifs impliqués dans ce dossier, ont convoqué la presse rue d'Aubagne pour faire part de leur incompréhension, comme Badra Deloum du collectif du 5 novembre.
Pourquoi il ne serait pas le bienvenu? C'est qu'il n'a pas la conscience tranquille. C'est le maire, c'est le représentant de tous les habitants. C'est le premier habitant de cette ville, monsieur. Pourquoi il ne viendrait pas? Monsieur le maire devrait être devant les manifestations, s'il avait la conscience tranquille, avec tout son conseil municipal.
Alors, la municipalité va organiser néanmoins sa propre cérémonie en mairie centrale, avec une minute de recueillement, drapeau en berne, et une plaque commémorative sera dévoilée. Dévoilée seulement puisqu'elle sera installée rue d'Aubagne ultérieurement.
Stéphane Frangy à Marseille pour Europe 1.
Europe 1, le journal de la nuit. Isabelle Millet.
Il est 22h08, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Et à la SNCF, une confirmation, 9 TGV Atlantique sur 10 circuleront toute la semaine alors que le travail a repris normalement au centre de maintenance de ces trains après plusieurs jours de grève. Un premier bilan maintenant, 2 mois après la rentrée scolaire. Selon le gouvernement, 87% des enfants handicapés ont pu faire leur rentrée. Malheureusement, il y en a encore qui restent sur le carreau, les cas les plus difficiles souvent. Bilan en demi-teinte donc pour Luc Gâteau, le président de l'UNAPI, c'est la principale fédération d'associations de défense des personnes handicapées.
On sent quand même que tout ça est une mise en œuvre un peu chaotique. Elle a des niveaux très disparates sur les territoires, pas toujours cohérentes, ce qui nous amène à un bilan un peu mitigé sur cette rentrée scolaire, parce qu'on sent que beaucoup de choses veulent se mettre en place. Il faut continuer à mettre des moyens. Il y a nécessité aussi de former des accompagnateurs dans le milieu scolaire ordinaire, ce qui met du temps. Former aussi tout le corps enseignant, parce qu'il faut viser à ce que l'ensemble des droits soient effectifs pour tous les enfants.
Luc Gâteau de l'UNAPI, joint pour Europe 1 par Ève Roger. 5 ans avant les Jeux Olympiques, Édouard Philippe défend l'héritage de Paris 2024 en déplacement en Seine-Saint-Denis. Le Premier ministre a donné aujourd'hui le coup d'envoi du chantier du village olympique. Le site qui est à cheval entre Saint-Denis, Saint-Ouen et l'île Saint-Denis accueillera près de 15 000 athlètes et officiels pour ces JO avant d'être reconfiguré en un nouveau quartier avec plus de 3 000 logements dès 2025. Emmanuel Macron, lui, est en visite d'État en Chine pour la deuxième fois de son quinquennat. Il doit notamment inaugurer le centre Pompidou de Shanghai et signer de nombreux contrats. Un déplacement aux enjeux principalement commerciaux et aux accents très européens. Adrien Beck, vous suivez le chef de l'État qui est d'ailleurs accompagné par une ministre allemande.
Oui, comme si Emmanuel Macron voulait dépasser les enjeux économiques franco-français en accueillant les dirigeants de géants allemands comme Volkswagen, Siemens ou encore Nokia pour une discussion avec des patrons français en écoutant leurs doléances. Le chef de l'État espère incarner le message européen auprès de Xi Jinping. Il l'a dit tout à l'heure devant eux.
Je pense que c'était utile d'avoir peut-être un moment de coordination européenne. Plus on joue en franco-allemand et surtout en européen, plus on a de la crédibilité et des résultats.
Et pour quels résultats? L'Europe ne parle pas toujours d'une seule voix face à la Chine. Angela Merkel elle-même n'avait pas fait le même geste lors de sa venue ici en septembre. Un grand patron français en sourit. On se retrouve tout cela, dit-il. Mais en réalité, chacun fait son business de son côté.
Adrien Beck, envoyé spécial d'Europe 1 à Shanghai à l'occasion de cette visite présidentielle. Le Puy du Fou, le célèbre parc à thème français vendéen, a annoncé qu'il allait s'implanter avec un village d'époque et un grand spectacle nocturne inspiré de la culture chinoise pour un budget de 230 millions d'euros. Le tout au pied de la Grande Muraille. Un nouveau speaker pour la Chambre des communes à Londres. Il s'agit du travailliste Lindsay Hoyle qui succède au truculent John Bercow qui était en poste depuis 10 ans. Et il aura donc la lourde tâche de conduire désormais les débats sur le Brexit. En Grèce, un nouveau drame sans doute évité de justesse. 41 migrants retrouvés cachés à l'intérieur d'un camion frigorifique. Tous heureusement en vie, mais 7 d'entre eux souffrent de problèmes respiratoires et ont dû être conduits à l'hôpital. Le plus prestigieux des prix littéraires, le Goncourt, c'était aujourd'hui. Il a été attribué à l'écrivain toulousain Jean-Paul Dubois pour son livre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » paru chez l'Olivier. Il a été choisi au deuxième tour par 6 voix contre 4 pour Amélie Nothomb. C'est un roman nostalgique sur le bonheur perdu, 22e livre de l'écrivain. Il raconte l'histoire d'un homme, Paul Hansen, qui croupit dans une prison au Québec.
J'ai pas entendu mon nom, j'étais en train de manger une gaufre et de boire un café et je n'avais aucune inquiétude parce que je n'envisage jamais les bonnes hypothèses. Et j'ai été aussi heureux de penser à tous les gens à qui ça allait faire plaisir, des gens que j'aime. Mais c'est lointain pour moi, quoi. C'est virtuel, c'est quelque chose de, voilà, qui est là aujourd'hui et qui disparaît demain et puis la vie continue et avec quelques modifications bien
et
sûr,
c'est ça.
Mais c'est ça change rien.
Vous aimez votre liberté que vous placez au-dessus de tout, mais le Goncourt en poche, vous craignez effectivement que cela entache en quelque sorte votre liberté ?
Pas du tout, non, au contraire. Le goût de la liberté, c'est quelque chose qu'on a en soi. Et puis toutes les choses agréables qu'on peut vous offrir ne font qu'ajouter à cette liberté. C'est pas le Goncourt ou autre chose, c'est le Goncourt et la liberté. C'est comme à Noël, c'est pas le train électrique ou la boîte magique, c'est les deux à la fois. Donc je pars avec le train électrique et la boîte magique.
Voilà comment Jean-Paul Dubois a accueilli cette récompense, ce prix Goncourt. Il était l'invité du grand journal de Nathalie Lévy ce soir sur Europe 1. Le Renaudot a lui été décerné à Sylvain Tesson pour La Panthère des Neiges paru chez Gallimard. Comme l'an dernier, le jury du Renaudot a récompensé un auteur qui ne figurait pas dans sa liste de finalistes. Et puis le foot. Demain à cette heure-ci, on sera en train de suivre la Ligue des Champions avec 2 matchs à partir de 21h. Le déplacement de Lille chez les Espagnols de Valence. Le LOSC, dernier de son groupe, doit réussir l'exploit sous peine de dire adieu au 8e de finale. Les Lyonnais, eux, accueilleront le Benfica à Lisbonne et on espère qu'ils seront boostés par leur nouvel entraîneur Rudy Garcia. Pour lui, en tout cas, demain, il faut tout donner. Évidemment, ça passe ou ça casse.
Quand on est en Ligue des Champions, il n'y a que 6 matchs dans la poule, c'est un mini championnat et donc les points à chaque fois que vous jouez un match, ils comptent énormément. Voilà. Malheureusement, on n'a pas pu revenir avec 3 points de Benfica, ni même avec 1, comme le match aurait dû nous le procurer. Donc comme on a perdu des points à l'extérieur, il nous faut les reprendre chez nous. Et voilà, parce qu'après il ne restera que 2 matchs, donc si on veut faire un pas vers la qualification, il faut absolument l'emporter demain. Donc ce qui est certain, c'est que le groupe avait besoin de retrouver de la confiance et seuls les résultats permettent à chaque joueur individuellement, à ceux qui en ont besoin et à l'équipe, de retrouver une confiance importante.
Voilà l'entraîneur de l'OL, Rudy Garcia, au micro Europe 1 de Christophe Lamarque. Grande soirée foot demain dès 20h avec Lionel Rosso. Et mercredi, on suivra le PSG qui accueille le club belge de Bruges. Et puis chez les Bleus du foot au féminin, mauvaise nouvelle au début du rassemblement à Clairefontaine. 3 joueuses, dont la capitaine Amandine Henry et l'attaquante du PSG, Khadija Toudiani, ont déclaré forfait pour le match de qualification à l'Euro 2021 contre la Serbie. Ce sera samedi à Bordeaux. Et nous, on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Anissa, on vient de vivre un épisode agité avec ces intempéries qui ont touché la France ce week-end.
Oui Isabelle, et cet épisode pluvieux et venteux est en train de quitter le pays par l'est. Alors demain, c'est en Corse que les averses seront les plus importantes, avec des coups de tonnerre même à prévoir, et du vent jusqu'à 70 km/h. Soyez prudents donc en Corse dès demain matin. À l'arrière de cette perturbation, bien sûr le reste du pays, c'est un ciel de traîne qui s'installe, avec des éclaircies qui alternent, avec des périodes d'averses sur la façade ouest de l'Aquitaine jusqu'au Midi-Pyrénées, en allant même jusqu'au Limousin. Là, il pleut demain dès le lever du jour, des averses qui dureront toute la journée, qui seront parfois même assez fortes. C'est sur le centre, le massif central, les Alpes et le Jura que ces précipitations arriveront dans l'après-midi. Alors c'est au nord, en Alsace, en Normandie, en Bourgogne et en Franche-Comté, c'est là que la journée sera la plus calme demain, avec de très belles périodes ensoleillées dans un ciel tout sec. Le long de la Méditerranée, le vent souffle, là aussi la tramontane qui se lève jusqu'à 80 km/h. Les températures demain sont stationnaires, quasiment les mêmes qu'aujourd'hui. 5 à 16 degrés le matin, il fera 8 pour Paris au lever du jour. Et puis au meilleur de la journée, dans l'après-midi, nous aurons 9 degrés à Rodez, 11 au Puy-en-Velay, 12 à Saint-Étienne, Lille, Clermont-Ferrand et Paris, 15 pour Bordeaux, 18 à Marseille et 21 degrés demain après-midi à Bastia.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hameau de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général d'Arc France. Noël se prépare pour les grandes marques, les arts de la table notamment, sont dans les starting blocks. A tout de suite sur Europe 1. Il est 22h17 et comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse à la bourse. Et c'est avec vous Didier Hameau, rédacteur en chef de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui vole de record en record sur de nouveaux espoirs d'accord commercial encore et toujours entre Américains et Chinois.
C'est sans fin, mais ça monte encore. Oui, Wall Street s'emballe un petit peu. Hein. Le Dow Jones au plus haut, plus 0,42%, 27 462 points, tout est au plus haut. Le Nasdaq plus 0,56%, 8 433 points. Le Standard & Poor's, l'indice SP500 plus 0,37%, 3078 points. Les spéculations sur un accord commercial partiel ont repris de plus belle donc sur les marchés. Il faut dire que les autorités chinoises ont évoqué cette perspective pour le courant du mois de novembre, même si la rumeur d'une signature qui pourrait avoir lieu courant novembre à Macao n'a pas été confirmée. On s'approche donc du but, clairement, avec des hausses sur les valeurs les plus en vue du côté des valeurs de technologie. Apple gagne 0,6%, Amazon plus 0,7%, Microsoft plus 0,6% aussi, Facebook plus 0,5%, IBM plus 1,6% et Intel prend carrément 2%. Il y a quand même une exception, c'est McDonald's, moins 2,7% après le licenciement de son patron Steve Easterbrook en raison d'une liaison avec un membre du personnel.
Effectivement, j'ai
vu ça. Ça n'a pas plu du tout au conseil d'administration.
Et ça a une incidence sur la bourse, c'est quand même incroyable. Hein.
Directement, oui. Là, effectivement, ça a surpris tout le monde et la bourse n'aime pas être surprise. Sur le pétrole, ça monte aussi, hein, plus 1%. Le Brent à $62,15. Exxon en profite pour gagner 3%. Le géant pétrolier à $71,67. Il n'y a que l'euro qui ne bouge pas vraiment. L'euro à 1,1130 face au dollar.
Et la Bourse de Paris, Didier, a elle terminé au plus haut de l'année, au-delà des 5800 points pour le CAC 40.
Ça monte bien, oui. Plus 1,08%, 5824 points exactement sur le CAC. Ce qui correspond aussi à un niveau record depuis la fin 2007, depuis 12 ans. Le secteur automobile est remonté sur fond d'avancée des négociations entre Peugeot et Fiat Chrysler. On a Faurecia, la filiale de Peugeot, qui regagne 5%. Peugeot, plus 3,3%. 24,15 €. Le secteur pétrolier, évidemment, dans le sillage du baril. CGG, plus 6,5%. Vallourec, plus 4,8%. Technip, plus 4,3%. Et puis le luxe, LVMH et Kering gagnent 2%. LVMH frôle les 400 €. Cela veut dire que le groupe pèse maintenant 200 milliards d'euros en Bourse de Paris.
Et Didier, il y en a un qui n'a pas profité de cet enthousiasme général, c'est Ubisoft.
Moins 4%, oui. Un petit peu décevant, 52 €. Il faut dire que le titre est un petit peu chahuté depuis quelques semaines. Le marché continue de digérer l'avertissement du groupe le mois dernier concernant l'exercice en cours avec un résultat opérationnel réduit entre 20 et 50 millions d'euros seulement. En revanche, l'exercice 2020-2021 sera nettement meilleur chez Ubisoft. Ubisoft qui retombe donc de 4% ce soir. Sur les autres places financières, ça monte nettement à Francfort, plus 1,3%, Madrid plus 0,9%, Milan plus 1,6%, Zurich plus 0,8%, Londres plus 0,9% et le CAC 40 donc en hausse d'1,08%, 5824 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon toujours très complet. Didier Hameau de boursier.com. Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité écho. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir sur Europe 1 le directeur général d'Arc France.
Bonsoir Tristan Borne.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général d'Arc France. Arc, c'est encore aujourd'hui le leader mondial des arts de la table. On n'en parle malheureusement pas assez. Alors un leader qui a un petit peu vacillé ces dernières années. En début d'année, les pouvoirs publics sont encore venus un petit peu à la rescousse. On va regarder comment va l'ancien malade. Est-ce que ça va enfin un peu mieux ?
Ah, oui, clairement. Depuis la reprise en 2015, les choses se sont améliorées. Il y a eu un repositionnement prix qui a permis de relancer la machine et de remplir l'usine qui, dans notre monde verrier, il est important d'avoir une usine remplie.
Mais on avait quand même l'impression qu'en 2015, on nous avait dit c'est bon, un actionnaire américain arrive, ça va relancer totalement l'entreprise. Bon, on voit encore qu'il y a eu des soubresauts et des petites difficultés, qu'il a fallu remettre un peu d'argent. Comment ça s'explique, malgré tout, que vous n'arriviez pas à retrouver totalement les chemins de la croissance ?
En fait, il y avait deux choses à solutionner chez Arc. Et le premier, c'était l'aspect commercial, attractivité des produits. Et en 2015, la première des chantiers qui a été lancé, c'était vraiment sur le plan commercial et renouvellement de l'offre. Les produits Arc avaient un peu vieilli. Il était temps de redonner un petit coup de jeune. Et on a lancé en 2015 300 formes nouvelles de verre. Donc ça, c'était la première étape. Et il était prévu de lancer une deuxième étape sur la productivité de l'usine. Et en fait, on a eu du mal à concilier dans un premier temps les deux. Donc d'abord remplir l'usine, ce qui était fait. Et à partir de cette année, il fallait relancer un plan de productivité, cette fois-ci. Et donc on avait besoin d'investir. Et il a fallu retrouver donc de nouveaux investisseurs, sachant que les banques ne prêtent pas à Arc. Donc il fallait se tourner vers les pouvoirs publics, les fonds souverains et un certain nombre d'autres partenaires.
Alors vous le disiez, on a lancé de nouveaux modèles ces dernières années. C'est quoi aujourd'hui la tendance de l'art de la table, qui est par ailleurs un secteur qui a connu les pires difficultés du monde en France ?
Il y a deux axes. Le premier axe, c'est la premiumisation, comme on connaît sur tous les produits de grande consommation. Et Arc a répondu par le lancement du cristallin. D'ailleurs, le cristal au plomb n'existe plus et il fallait trouver une autre matière qui ait la même sonorité, la même transparence, le même éclat. Et on l'a retrouvé avec le cristallin. Donc on a lancé ça en 2017, un four dédié au cristallin. Et ça nous a permis de lancer toute une gamme de nouveaux produits qui répond aux besoins de la part des restaurateurs, de la part aussi, lors des fêtes de Noël, d'avoir une belle table. Toutes les tendances.
Ça reste une vraie période pour vous, parce que par exemple, pendant très longtemps, les groupes comme vous avez fonctionné sur les listes de mariage en France. Ça n'existe plus du tout.
Plus du tout.
Il a fallu se réinventer là aussi. Donc il y a encore une vraie tendance de Noël où on se fait plaisir.
On est le 4 novembre, donc je peux vous donner le chiffre d'affaires du mois d'octobre, qui est le moment où en fait on remplit les magasins pour après les sorties de Noël. On a battu le record de chiffre d'affaires depuis 6 ans.
Parce que d'après vous, vous allez mieux et les gens vous font à nouveau confiance, ou parce que vous sentez à nouveau une vraie demande de la part des Français? On avait dit que notamment toutes les émissions de cuisine et tout faisaient que les gens avaient envie de recuisiner chez eux et du coup avaient envie d'avoir une jolie table pour mettre en valeur leur plat.
On a relancé en 2015 le positionnement prix, parce que faut pas rêver, justement, il n'y a plus de liste de mariage, on est sur un produit qu'on essaie de banaliser, que les gens renouvellent plus souvent, parce qu'on ne garde plus comme avant, pendant 20 ans, le service de notre grand-mère ou de notre mère, et donc il faut renouveler. Et donc il fallait qu'on ait un positionnement prix qui permette aux consommateurs de faire ce renouvellement, et en effet les émissions de télé sont un parfait vecteur pour nous de promotion de nos produits. Puis lancement de nouveautés. Et ce qu'on fait dans les nouveautés, je vous ai parlé de cristallin, mais je pourrais parler aussi de tout ce qu'on fait sur Opal, parce qu'on est un grand fournisseur aussi d'assiettes.
Jusque-là, votre marque de fabrique, c'était ces fameuses assiettes blanches.
Voilà.
Et ça y est, vous avez réussi à mettre de la couleur. Et je crois que ce n'est pas juste un colorant. On pourrait dire, oh, c'est facile, ils ont mis un peu de rouge. Non.
Le vert, c'est une grande technologie. Il s'agit de travailler des matériaux qui sont à 1400 degrés. Il faut arriver à marier une couleur et un produit de base. Et ça a mis plus d'un an à être développé. Et la première année, 12 millions de chiffre d'affaires, rien que sur la couleur. Mmh. En effet, nos tables, on n'a plus envie qu'elles soient blanches. On a envie de marier plusieurs couleurs sur le même plat.
Vous produisez encore quasiment tout en France, en tout cas une grosse partie en France. Vous avez la 8e plus grosse usine de France en termes d'employés, dans le nord de la France, à Arc, mais A-R-Q-U-E-S. Est-ce que le Made in France, ça marche véritablement? Parce que vous en êtes un des principaux acteurs.
Ah, clairement, luxe, art de la table, gastronomie, tout ça, c'est des mots qui se marient très bien avec le mot français. Donc, on a un positionnement, un même produit. On a des usines à l'étranger et qui profitent d'ailleurs de cette expertise, parce que l'expertise, elle est à la fois dans la fabrication, mais aussi dans le design. On a un bureau design très important qui permet d'être toujours sur les tendances de consommateurs et d'amener une vraie valeur au consommateur quand il achète un produit Arc. Sur nos autres usines, on fait des produits plus commodités, et dès que les autres usines à l'étranger de Arc veulent compléter des gammes avec des produits un peu plus sophistiqués, ils viennent le chercher dans le catalogue des produits fabriqués en France.
Mais le Made in France, pour le client, c'est quelque chose de capital. On se souvient des verres Arc qu'on avait à la cantine où c'était bien écrit « Made in France » au fond. Ça marche véritablement ?
Oui, oui, parce qu'on est maintenant sur des gammes. Alors, vous parlez des gobelets de la cantine, mais pas oublier qu'un de nos premiers marchés, c'est le monde de la restauration, qui s'est premiumisé, lui aussi. Et donc, on a la marque Chef et Sommelier, qui, elle, est vraiment très haut de gamme et qui permet de répondre à cette attractivité et cette cohérence avec le Made in France.
Parmi les points extrêmement importants dans votre stratégie aussi, c'est d'être un groupe beaucoup plus en avance que ce que vous étiez jusque-là sur le respect de l'écologie, d'une certaine manière. Et quand on travaille le verre, on a énormément de travail à faire là-dessus. On essaye de mettre de côté le gaz pour arriver à une technologie totalement électrique. C'est d'ici à combien de temps que vous arriverez à être un peu plus vert ?
Alors, deux choses sur le verre, et le verre et l'aspect écologique. Le premier, c'est qu'on a une vraie alternative au plastique et qu'on va pouvoir rendre le service d'éliminer un certain nombre de plastiques. Alors, ça va pour les emballages, où on n'est pas sur les bouteilles en verre, mais aussi éviter tous les gobelets plastiques, les assiettes plastiques. Donc ça, c'est trouver des produits qui soient vraiment une alternative au plastique. Mais il faut que, et là où je vous rejoins, c'est il faut être qu'on soit en cohérence dans nos méthodes de production. Et historiquement, le moyen le plus simple pour fondre du verre, c'est le gaz. Le gaz et l'électricité, on utilise déjà un tiers de notre énergie, c'est l'électricité. Mais on veut maintenant aller à 100% d'électricité. Et on a déjà fait des essais industriels qui montrent que la faisabilité est là. Maintenant, il faut qu'on déploie. Dans combien d'années, notre projet, on est en train de reconstruire un four là, cette année, et on ne l'a reconstruit que pour 3 ans, en se disant que d'ici 3 ans, on sera complètement opérationnel pour la fusion électrique.
Eh bien, ce sera l'occasion de revenir dans les studios d'Europe 1 à ce moment-là. Tristan Borne, directeur général d'Arc France, était notre invité ce soir. On se retrouve pas demain, puisqu'il y a un match de football, donc ce sera après-demain, 22h20, toujours sur Europe 1.
Effectivement, on vous dit à mercredi, Emmanuel Duteil.
C'était l'invité éco avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
Europe 1. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant ? A tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Dans Marseille, ville blessée, titre le journal La Croix, qui rappelle qu'il y a un an tout juste, deux immeubles d'habitation insalubres de la rue d'Aubagne s'effondraient, causant la mort de 8 personnes. Depuis, des centaines d'immeubles ont été évacués. Les conséquences de la tragédie sont visibles dans des dizaines de rues de la ville, partiellement ou totalement fermées. Des blessures collectives avec lesquelles les habitants, comme les familles des victimes de l'effondrement, tentent d'apprendre à vivre. Le pari européen de Macron en Chine, c'est ce qu'écrivent le journal Les Échos, qui revient sur cette visite d'État de 3 jours. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Le président français plaide pour une stratégie commerciale européenne commune face à la deuxième puissance mondiale. Commerce, le pari chinois d'Emmanuel Macron, écrit quant à lui le Figaro. Le président français tente d'enrôler les Européens afin qu'ils unissent leurs forces face aux géants asiatiques. Mi-mandat, ce que le pouvoir a révélé de Macron, c'est le titre du journal Opinion. En 2017, les Français ont élu un inconnu. Après 30 mois de conduite du pays, la personnalité du chef de l'État se dessine peu à peu, y compris pour ceux qui l'entourent. 2 ans et demi après son entrée à l'Élysée, le président exclut de tirer le bilan lui-même de cette première mi-temps, mais réfléchit, selon son entourage, à une prise de parole d'ici la fin de l'année, afin de proposer une perspective aux Français. À découvrir également demain dans le journal de la Haute-Marne, l'édito de Christophe Bonnefoy qui revient sur les incidents à Champlou-les-Vignes en banlieue parisienne. Imbéciles, délinquants, criminels, sauvageons, irresponsables, abrutis. Certes, les mots ont leur importance, écrit-il, mais faut-il vraiment que la politique ne soit plus qu'un ring de boxe où tous les coups seraient permis pour que les propos du Premier ministre sur l'incendie de Champlou-les-Vignes en viennent à ne plus être commentés sur le fond, mais uniquement sur la forme? Oui, les quelques énergumènes qui ont mis le feu à un chapiteau samedi soir sont des imbéciles. Oui, ce sont des irresponsables. Ils n'ont pas compris ou feignent de ne pas comprendre que l'infrastructure qu'ils ont ciblée jusqu'à la réduire en cendres n'est pas le symbole d'un État qu'ils diraient oppresseur. Cet équipement culturel au cœur de quartiers qu'on dit difficiles était tout simplement un beau projet, abouti, utile, nécessaire même, qui aura coûté quasiment 1 million d'euros, payé sûrement indirectement par les impôts de leurs parents, fréquenté sans doute par leurs frères et par leurs sœurs. Édito à lire dans le journal de la Haute-Marne demain matin. Voilà donc ce que vous découvrirez dans vos kiosques. et à 22h31. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1. Vous êtes en compagnie d'Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Très belle émission à vous.
Merci, à tout à l'heure, 23h.